Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se retrouve autour de cette table avec une nouvelle personne, tout simplement. Serge, il paraît que tu viens de dormir.
Oui, je me réveille, j'ai un peu froid, je vais prendre mon petit déjeuner. Bah, non, mais...
Écoute, moi, tu m'as dit que tu avais fait une petite nuit blanche sur ton travail acharné, tout simplement. Et ça, c'est beau.
J'ai tendance à faire ça, je travaille toutes les nuits. J'ai une vie assez décalée, genre californienne. Ouais. Je me couche le matin, il fait jour. L'après-midi, je profite du beau temps. Le matin, je dors jusqu'à 14h à peu près. Et puis, toute la nuit, je travaille. Et c'est bien parce que je suis très concentré. Je n'ai pas de distraction. Je ne me dis pas, il fait beau dehors, je peux faire tout ça, etc. Ouais. Et les meilleurs moments de la journée, au soleil dehors, c'est génial. Enfin, j'adore cette vie, quoi. Alors, évidemment, tout le monde me dit, il est décalé, il est asocial et tout. En fait,
c'est, donc là, génial. Pour toi,
c'est ce qui te doit.
Bah, c'est ça. Pour toi, il est midi, là, à peu près.
Bah, bientôt je vais aller au travail hein.
En rentrant, hop là,
incroyable. Donc je vous l'ai dit pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont peut-être un peu aussi plus jeunes, on va pas se mentir, tu t'appelles Serge Humpich et
j'ai pris un coup de vieux là.
Bah non, mais moi je suis né en 99, donc là les faits dont on va parler sont à peu près dans ces eaux là donc nécessairement, mais c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont découvrir un truc de dingue, quoi.
Ah, c'est eux, ces soirées cold case.
C'est ça, exactement. Je te présente déjà Germain et Ronny.
Enchanté.
Salut.
Que tu as peut-être déjà vu. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez surtout pas.
Ça va.
Et on va essayer de retracer dans les grandes lignes, et on va pouvoir parler de plein d'autres choses, évidemment, mais retracer une histoire en particulier qui t'est arrivée. Je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui dans l'émission donc l'électronicien, parce que tu es électronicien.
Ouais, un vrai électronicien.
Un vrai de vrai électronicien, Serge Humpich, qui est à l'origine d'une des histoires les plus folles de hacking en France.
Oufissime.
Voilà, petit teasing, on peut résumer par tu as trouvé une faille dans le système des cartes bancaires, qui t'a mené notamment à avoir une peine de prison. C'est juste, j'ai dit que des trucs vrais.
D'accord.
Pas à être condamné à.
Voilà, mais
c'est différent.
Exactement. Différent. Non, mais c'était pour là. Je voulais juste faire ma phrase de résumé parce qu'elle est quand même incroyable. C'est évidemment plus complexe. On va pouvoir revenir sur ça en détail. Donc, petite mise en contexte. Tu me dis, si je me trompe, on est dans les années 95 environ. Donc, toi, tu as une trentaine d'années. Tu travailles dans les salles de marché. Est-ce que c'est bien ça?
Ouais.
Et c'est là que toi, tu aimes bien bidouiller, donc démonter des choses pour les comprendre. Et tu vas démonter un terminal de paiement. Et voilà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce que tu fais concrètement?
D'abord, je hackais plein de choses depuis des années. J'adore ça, j'adore cette culture qu'il y avait à l'époque. C'est différent de celle d'aujourd'hui, hein, qui n'avait rien de social. Hein, mais on passe toujours des bons moments à essayer de passer quelque chose. Quoi. Donc j'ai attaqué tout, hein, les machines à café, les tickets de métro. J'adorais cette technique, ce savoir-faire qu'il y a derrière. C'est une vraie seconde culture. Quoi. Et puis on se creuse la tête. Donc ça, c'était bien. Alors là, j'avais l'occasion de... J'adore les choses très minutieuses, la concentration... Je pouvais, les choses qui durent longtemps aussi, à vrai dire. J'aime bien aussi refaire de l'électronique. J'appréciais de continuer ça. Ensuite, il y a un aspect, pourquoi j'ai attaqué la carte bancaire? Parce que c'était quand même un objet central dans nos vies et que si j'y arrivais, c'était quand même conséquent. Mais aussi, c'était un truc de plus en plus géré par l'État. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien d'ingénieur et qui, en général, prennent des tas de décisions pour des raisons de partenariat, des raisons économiques. Enfin, voilà, je voyais ça partout, quoi. Donc, il y avait de bonnes chances que ça soit pour un système assez ancien comme ça. On déduit tellement de choses sans même toucher, sans même expérimenter. Rien que de regarder l'environnement, on tire plein de choses. C'était un vieux truc, ça pouvait pas chauffer. Il n'y a pas de raison que ça évolue. Tous ces gens qui n'y connaissent rien font probablement pas de maintenance. Et c'était le cas. C'était l'une des grandes faiblesses. Quoi. Cette puce datait déjà à l'époque de facile 10-15 ans. Hein. C'est un modèle CP8. Okay. Tout y était. Tout y était. Ce qui m'a beaucoup intéressé, alors ça c'est vraiment peut-être anecdotique, mais pour moi ça jouait. C'est que le terminal de paiement était assez gros. Oui, pas miniaturisé comme aujourd'hui. Le fait qu'il soit gros, il y avait de bonnes chances que nous ayons à l'intérieur des boîtiers dits plastiques, hein, des boîtiers DIP, c'est-à-dire en dixième de pouce. Donc, je vais pouvoir accrocher mon analyseur logique dedans.
C'est plus simple pour travailler, j'imagine, d'avoir un peu d'espace.
C'est l'espace, mais aussi le fait qu'on voit passer les bus d'adresse, etc. Aujourd'hui, quand tout est fondu dans un composant qui contient tout, il faut débugger avec les possibilités de débugage qui sont prévues, mais...
C'est compliqué.
Mais à l'époque, ça m'intéressait de pouvoir faire tout ça, quoi. Et...
Là, vous aviez accès à vraiment chaque étape de la transaction ou du système, quoi, genre.
Ça, c'est pas très compliqué, c'est des octets en 1200 baud qui passaient, donc ça, c'est vite réglé,
normal, hein, évidemment.
Guillemets. Mais par contre, oui, j'ai passé des mois avec un analyseur logique sur le processeur. Donc, je voyais les cycles fetch, je voyais les bus de données, les bus d'adresse, etc.
Ok.
Et alors là, je vais vous donner une anecdote technique. C'est comment... Parce que ces terminaux, quand vous les achetez, hein, il y en a là, c'est en vente libre, mais il vous faut une carte commerçant. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça pour l'activer. Et là, le problème que j'avais, c'est que j'avais 2 mégas de mémoire, de RAM et tout, le programme se trouvait dedans. Jamais raconté, hein, c'est une primeur. Hein.
Allez.
Et le programme se trouvait dans cette RAM. Et si vous touchiez le moindre truc avec l'oscilloscope, ça se déprogrammait.
Là, c'est la rage.
Parce qu'il ne sert plus à rien. Donc, il faut faire très attention. Comment je vais sortir ce qu'il y a dans cette RAM? Parce que le 2PROM qu'il y avait, c'est facile. Je la sortais, je la mettais dans un lecteur et je l'avais. Mais ce n'était pas dedans tout ce qui traitait de la carte. En tout cas, en très grande majorité.
Parce que, donc, pour expliquer, c'est comme c'est de la mémoire qui, quand on la, quand on, enfin, qui est persistante. Alors que la RAM, c'est beaucoup plus... compliqué, c'est ça?
Voilà, la RAM, là, elle était programmée. Hein, et puis, j'ai pas accès, je peux pas la sortir. Si je la sors, elle est perdue. Okay. Alors, il fallait que je la sorte. Et ça m'embêtait, je pouvais pas travailler. Alors, j'ai fait... C'est là, les petites astuces, quoi. J'ai pris une carte à piste quelconque, et je l'ai passée, parce qu'il y avait aussi un lecteur de carte à piste. Évidemment, il me dit « erreur ». Bon, j'avais ouvert le boîtier, je prends l'oscilloscope, je le mets sur le bit d'adresse du poids fort du processeur. Au moment où je passe la carte, elle est à courbe, un oscillateur analogique, l'oscilloscope, hein, pensé à l'époque, elle reste en haut ou en bas. Mais je sais que le bus d'adresse, il a pas trop oscillé, on pouvait s'en douter. Hein, c'est une petite routine quelque part, hein, une petite fonction qui doit lire la piste. J'essaye sur le... Je croise les doigts là, hein, je repasse la piste sur le bus d'adresse d'après. J'ai réussi à en passer 8 hein, sur 16 bits, ça veut dire qu'il ne reste plus que 256 octets où se trouve cette fonction. Allez, c'est évident que ça c'est dans le 2PROM. Allez, je vais regarder dans le 2PROM, j'avais écrit mon désassembleur, je passe dessus et je suis tout de suite dans cette fonction-là. Ensuite, il y avait un petit bus, il y avait dans la documentation.
On perd du monde dans le chat, accrochez-vous, courage.
En gros, c'est, vous avez ça vraiment chaque étape, genre, c'est comme si aujourd'hui, j'essaie de faire l'analogie, c'est on allait ligne par ligne dans le code, vérifier est-ce que le code fait ça? Est-ce que le code fait ça? Sauf que là, on est vraiment sur du dur, et du coup, vous vérifiez sur les oscillations dans les octets, c'est vraiment, vous avez une machine qui vous fait haut, bas, haut, bas, et vous vous dites, ok, là je touche sur le bon bout de la logique.
Ça m'a aidé à savoir où se trouvait le programme.
Voilà. Okay.
Et donc, ensuite, je sors le 2PROM, je vais modifier cette fonction dans le 2PROM, qui va utiliser, parce qu'en fait, il y a 2 pinoches sur le processeur qui contenaient un port série. J'ai vérifié, elles aussi, qu'ils s'en servent jamais. Je le reprogramme en port série, ces pattes-là. Et j'ai comme ça vidé avec un double checksum tout le contenu de la RAM dans mon PC, qui avait aussi un programme et qui l'a sorti.
Okay.
Et du coup, c'est le genre de grand moment que personne ne sait.
Ouais, c'est en gros, vous avez le code source du truc, quoi. Toute la logique qu'il y a derrière, quoi.
Les techniciens m'auront compris.
Ouais, exactement. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de sentir qu'est-ce qui se passe.
C'est réel, quoi.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Que le moment de jubilation d'avoir détourné le système, quoi.
Je crois que je le dis dans mon livre. À un moment, là, j'ai trouvé une phrase où il y a marqué les petits poissons dans l'eau se noient. Enfin, on trouve des choses bizarres. Évidemment, on va dumper tout de suite, hein, pour regarder un petit peu ce qu'on a trouvé, ça. Et donc c'est après que je vais trouver tout doucement en passant la carte et en déclenchant un analyseur logique bien configuré où est-ce que ça se passe. Après je peux assez facilement trouver où est-ce qu'on l'allume, où est-ce que tout ce que je voudrais quoi. Hein. Et après j'ai essayé d'extraire toute la partie qui gère la partie sécurisation de la carte, ce qui l'authentifie, ce qui est pas du tout c'est différent du code secret. Hein. Le code secret vous dit est-ce que c'est bien vous qui l'utilisez, c'est quelque chose de facile à utiliser. L'authentification dit je suis une vraie carte, hein, et pas un peu comme un... En ayant changé ça, après c'est comme si j'avais fait un faux billet, disons, de 210 euros, indubitablement considéré comme vrai. Quoi.
En gros, il y a la capacité de créer une carte de toute pièce.
Vraie carte, ouais... Entièrement, puisque j'ai mis des numéros de cartes bancaires qui étaient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça passait. Ça, faut le faire. Donc, ça prouvait.
Tu étais en capacité de générer une carte qui avait ce numéro-là et tu l'as passé dans un système et c'était valide, quoi. Validé.
Oui, oui, c'est comme ça que j'avais acheté à l'époque une dizaine de tickets de métro, oui, avec des numéros comme ça, complètement fantaisistes, pour montrer qu'effectivement tout était fichu, quoi.
Attends, juste que je comprenne bien. L'argent, du coup, il venait d'où dans ces cartes-là?
Il n'y a pas vraiment d'argent, puisque en fait le terminal considère que c'est une vraie carte.
Ouais.
Il va sortir la facturette et lui, il envoie un ordre de débit quelque part.
D'accord,
donc,
okay.
La question est plus où va cet ordre de débit, okay. Il doit aller quelque part sur un ordinateur, qui ne sait pas qui ça va.
Okay.
Toi tu payes, tout est validé,
en fait, il se passe
tu récupères
quoi.
Le truc, mais trois jours plus tard, il y a un ordi qui dit bah non, mais là, cette transaction.
Oui, il n'y a pas eu d'argent. Ouais.
Je peux le débiter à personne, quoi. Donc,
voilà.
D'accord. Ouais.
C'est fou.
Donc, c'était pas une carte qui permettait de retirer de l'argent, par exemple.
Ça, c'est un problème un peu différent. C'est-à-dire que les distributeurs de billets fonctionnaient encore à l'époque principalement avec la piste.
Okay.
C'est une question historique. C'est-à-dire que l'intérêt de la carte à puce, c'est qu'à l'époque, les réseaux. Il n'y a pas encore d'Internet, les réseaux, d'une manière générale, coûtaient vraiment très cher, les télévisions spécialisées, etc. Donc l'intérêt de la carte à puce, c'était économique. Okay. Hein, on n'a plus besoin de ça, alors que les terminaux de distributeurs de billets, bon, bah, eux, ils étaient connectés. Hein, donc eux, ils vérifient de manière autrement. Quoi.
Okay.
Désolé, mais c'est en fait... Ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui était assez quand même précurseur à l'époque. C'est vous partez du principe que l'autorisation et l'identification de la carte, c'est-à-dire bon, je suis une carte et je suis autorisé parce que j'ai mis le code. Vous partez du principe, tout se passe dans ma carte. Et du coup,
le terminal,
lui il va vérifier ce que vous lui donnez et vous partez du principe, bah lui, il vérifie juste si ce que j'ai forgé est vrai. Mais il vérifie pas si la transaction, elle part derrière ou des choses comme ça. Et du coup, ça, aujourd'hui, ça paraît tellement logique quand on programme de faire ça. Mais à l'époque, c'était hyper précurseur d'avoir cette logique. Je sais pas comment vous êtes arrivé à vous poser cette question.
Toujours
quoi.
De l'observation extérieure. J'ai bien vu que le terminal n'était pas forcément relié au moment de la transaction. Donc, toute l'information s'y trouvait.
Et donc ça fait que vous pouviez créer comme des yes cards quoi, à l'infini quoi,
au moins je pouvais travailler avec toutes les données quoi.
C'est terrifiant. Et très concrètement, donc on a expliqué, vous avez trouvé ça, vous êtes allé voir le consortium, j'ai oublié son nom, c'est un nom très compliqué, mais le consortium, le GIECB, voilà.
Voilà, le groupement des... Qui, association qui, des banques.
Hein, voilà, pour, qui gère donc les cartes bancaires les cartes, en France. Ouais. Avec donc avocat et huissier.
Un avocat, puis un conseiller en propriété industrielle, disons ce que fait l'ingénieur de base, pour s'entourer un tout petit peu, oui.
Et donc qu'est-ce que vous leur dites à ces gens où vous avez littéralement montré que l'entièreté de leur système était faillible?
Alors... Le problème que j'avais, d'abord, c'est que c'est comme si j'avais voulu une soucoupe volante. Personne ne me croyait. Ça, c'est assez dur. Il y a des gens qui voulaient bien me croire, j'avais trouvé quelque chose, mais ils ne savaient pas trop quoi, ils ne comprenaient rien. Voilà, enfin, en gros, personne ne me croyait. Quoi. D'où la difficulté de discuter avec eux. Eux-mêmes, c'est pas des techniciens hein, du tout, plutôt des juristes, des anciens policiers, de ce que j'en ai entendu. Ils exploitent la carte à puce. C'est pas eux qui la maintiennent ou qui la mettent au point, comme par hasard. Et Au début, les discussions, elles sont pas très simples. C'est pour ça que j'ai, au bout d'un moment, fait une démonstration. Parce que là, je savais que ça allait les intriguer, ils allaient les passer à quelqu'un d'autre, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui va quand même regarder, qui va, lui, s'inquiéter vraiment. J'ai fait comme ça.
Ouais. Et alors là, ça se passe pas forcément comme prévu.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Et
alors là, je vais vous étonner. Donc un matin, donc je prends ma voiture, je vais à mon travail. Là, je me dis, tiens, il y a une place de libre, là, ça arrive jamais. Parce que je pense aujourd'hui à chaque fois que j'ai le voie une place de libre. Hein. Donc je me gare et je me fais arrêter, mais alors par une flopée de gens. Au début, j'ai cru qu'ils voulaient voler ma voiture, j'ai pas tout compris. Mais je voyais qu'ils étaient tellement nombreux que là, j'ai vu que c'était crédible. Donc là, ils m'arrêtent assez violent les premières minutes.
Et donc c'était une
arrestation. Et il faut comprendre que j'ai éprouvé du soulagement. Parce que vivre quand personne vous croit, c'est dur.
Quand vous croyez. Donc là.
Voilà, bah là, il y a quelqu'un qui m'a cru. J'étais pas fou.
Mais qui vous a envoyé en garde à vue, c'est ça?
Ça, c'était assez présent. Bah oui, j'étais, je crois, une quarantaine. Hein. Ils ont fouillé pendant ma maison pendant plus de 12 heures. Le moindre post-it était photographié. Alors, il y avait 64 fils sur le terminal de paiement qu'ils ont trouvé. Ils voulaient faire une photo, enlever un fil, refaire une photo. Ils ont fait des... ils mesuraient la taille des portes, des fenêtres... Ils faisaient des choses assez particulières. Enfin, ils ont passé un temps fou. Ouais.
Mais quand même, pour se restituer le contexte, on est fin années 90, quelque chose comme ça. On est dans un monde où les piratages, c'était quelque chose d'extrêmement rare et d'extrêmement peu médiatisé. Et du coup, vous arrivez en de manière éthique à essayer de dire « là, on a un problème ». Et
l'accueil est froid.
L'accueil est violent.
L'accueil est super froid. Les gens vous croient pas. Mais aujourd'hui, en fait, on écoute cette histoire, on se dit c'est hallucinant pourquoi personne l'a cru. Mais on était à une époque où ça arrivait jamais ces trucs comme ça, quoi. Genre,
je pense aussi que l'objectif était trop gros. Aucun professionnel n'aurait tenté ce que j'ai fait. Ils considéraient tous que ça, de toute façon, c'est pas la peine d'essayer. Il y a tellement de gros spécialistes qui avaient travaillé là-dessus, que c'était hors de question de le faire. Donc c'était tellement inattendu, et aussi tellement gros en application, que... voilà.
Ils n'ont pas cru. Et alors, toi, vous y attendez à être reçu comme ça par les flics? Enfin, c'est quoi la réaction à ce moment-là?
Bon, alors déjà, j'ai ressenti ça intérieurement, d'avoir laissé un soulagement. Je pensais que, somme toute, j'avais... De manière, j'avais pas escroqué tout un endroit. Après tout, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais trouvé quelque chose et j'avais pris contact. J'avais pas le sentiment d'avoir commis des actes terriblement répréhensibles, quoi. Donc, j'étais pas extrêmement inquiet
quoi. Il y en a, ils sautent la barrière, quoi.
Et surtout, c'était une preuve avec un témoin, etc.
C'est ça.
L'idée, c'était de...
Le ticket de métro, je les ai mis dans un sac, je leur ai donné. Donc, j'ai rien volé.
C'est bienveillant, quoi.
Ouais.
Donc là aussi, qu'est-ce que vous voulez trop qu'on me dise, quoi. Je pensais pas que j'allais en prison pendant des années. J'ai vu la juge après, qui a même été très menaçante. Son problème, c'était que je ne devais pas communiquer. Ça, elle voulait surtout pas. Et c'était leur problème, quoi. Il fallait étouffer l'affaire absolument. Ouais. Donc là, on m'a quand même bien menacé à ce moment-là. Et pendant un an, bon, j'ai laissé couler, on n'a rien dit. Un an, quand même, c'est assez long à l'époque à vivre.
Si vous aviez dit quelque chose, ça serait passé quoi? Ça aurait été vraiment dramatique, quoi.
Bon, je suis sûr que j'allais en prison, mais en tout cas, ils m'ont bien menacé de ça, ouais.
Ok.
Il y a eu des répercussions après sur le GIECB, justement, cette...
Oui, après, il y a eu on était un petit peu avant l'an 2000, donc ils ont prétexté le bug de l'an 2000. Le truc n'existe pas, là. Et toutes les cartes et tous les terminaux ont été changés, ouais.
Ils ont changé tout le parc?
Les cartes, de toute façon, elles changeaient, je crois, tous les deux ans, déjà. Donc là, bah, le cycle a fait le tour. Hein. Je ne sais pas s'ils l'ont accéléré un peu, mais tout a été changé. Ouais.
Oui, donc c'était pas un truc logiciel qu'ils pouvaient mettre à jour comme ça. C'était pire que... Fin...
Peut-être les terminaux, on pouvait en partie les upgrader, hein, je pense. Hein, mais bon, j'ai observé qu'ils ont tous été changés.
Oh, c'est terrifiant.
Ouais, c'est dingue, quoi.
Ouais, moi, ce que je trouve fascinant, c'est d'avoir fait l'un des plus gros piratages en France, voire peut-être en Europe. Et
qui aurait pu rapporter gros, hein, objectivement. Si on se met d'un point de vue d'un cybercriminel qui aurait trouvé ça, vous pensez qu'il aurait pu en tirer profit? Genre,
je pense que pour tirer beaucoup de profit, il faut un peu d'organisation, hein, faut faire beaucoup de transactions. Hein.
Ouais.
Mais est-ce que... Après, c'est un problème d'exploitation que moi, je ne maîtrise pas. Hein.
Et est-ce que
choisi un chemin qui n'était pas lucratif, mais qui était le chemin de éthique, justement. Et ça vous a coûté cher, quand même.
C'était un trajet d'ingénieur normal. Hein. Vous trouvez quelque chose, vous tentez de le monétiser, ou au moins de discuter, de voir un petit peu ce qui se passe. Quoi.
Mais est-ce que vous savez s'il y avait de la détection à l'époque de dire, imaginons, quelqu'un de malveillant avait trouvé cette faille, il aurait retiré l'équivalent d'aujourd'hui 1000 euros, quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un aurait été en mesure, à votre connaissance, de détecter ces transactions et après de retracer un acteur malveillant? Parce que vous l'avez fait, vous avez révélé quelque chose, et du coup, tout le monde vous a pointé du doigt, mais est-ce qu'ils se sont déjà posé la question, si cette personne n'était pas là pour trouver cette faille, est-ce qu'on l'aurait un jour détecté?
Je pense que si c'est s'il a fraudé massif, forcément. Pour le reste, moi, j'ai pas d'informations sur comment ils font. J'ai des informations de temps en temps sur le fait que... C'était le début de ces cartes-là. Je sais, par exemple, que les fur et à mesure des achats, à chaque achat, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la carte. Il y a une trace. Et bon, il fallait dimensionner ça. Et en fait, ils ont pris le nombre d'achats moyens des gens. Il suffit, la moitié des gens, au bout d'un moment, leur carte, elle ne marche plus. Il y a eu quelques erreurs comme ça qui ont été faites. C'était une époque de tâtonnement encore, où tout n'était pas forcément bien. Mais je n'ai pas d'informations de l'intérieur. J'ai tout fait. J'ai dû tout trouver. Je n'ai même pas de documentation technique.
Ouais. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a eu un jugement. Il y a eu 18 mois de prison avec sursis, c'est ça? Si je ne me trompe pas. 10 mois, pardon.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Et un autre truc, c'est que, alors ça, je suis curieux de savoir quelles ont été leurs justifications, mais tu t'es fait licencier à ce moment-là de l'entreprise dans laquelle t'étais.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit?
Ils m'ont dit, j'étais convoqué par le DRH qui m'a raconté vraiment n'importe quoi. Une perte de confiance, voilà, quelque chose comme ça. Je me rappelle de cette phrase-là. Il se faisait toute sa pyramide intellectuelle, tout était faux. C'est ce que je lui ai dit à la fin.
Non.
Voilà, puis alors c'était ridicule, quoi. Il y a un gars qui m'a emmené à la porte en bas pour... Il me met à la porte avec un air comme si j'allais mourir.
Ouais.
Il y a vraiment des gens, ils s'y croient, quoi.
Complexe.
Puis bon, voilà, ils m'ont mis... Ouais. J'étais en vacances, puis quand je suis rentré le premier jour, bah, ils m'ont viré. Ouais, après plus de 10 ans chez eux, quand même. Hein.
Ah ouais.
Ah, les salauds.
Aïe, aïe, aïe. Ça fait... Alors, ça fait quand même du bruit, cette histoire, surtout dans la sphère sécurité chez les chercheurs. Il y en a beaucoup qui ont vu quand même un signe que, eh ben, c'était pas un métier tranquille de trouver des failles. Ça rend les gens nerveux. T'as senti, toi, cet impact qu'il y a eu après dans le monde cyber?
Ah, je ne sais pas si à l'époque, il y avait vraiment un monde cyber qui était comme aujourd'hui. On essaie de développer et malheureusement de le normer. Qui, à l'époque, recherchait beaucoup ça? Il y avait des gens qui le faisaient, donc c'était le métier. Des gens qui travaillaient justement dans les cartes à puces, etc. Mais ouais, j'ai pas trop de retour sur ce qu'ils ont pu penser. J'en ai un petit peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelques contacts, mais est-ce qu'ils ont été nerveux ou pas à l'époque? Je pense qu'il faudrait leur demander à eux.
Ouais. Hein. Mais il y a une partie de l'histoire qui manque. Pendant un an, vous ne pouvez pas en parler, mais après, l'histoire s'est fait connaître, vous avez écrit un livre, tout ça. Comment on est arrivé de « on n'en parle pas pendant un an » à « il y a une médiatisation du sujet »
C'est une discussion que j'ai eue avec mon avocat à l'époque, parce qu'en fait, j'avais un grand avocat. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les policiers m'ont arrêté, il y a une chose que j'ai vue dont ils parlaient beaucoup et qui avait l'air très important pour eux, c'est que mon avocat, avec lequel j'étais voir le groupement de bancaires, lui est tombé. Et apparemment, un avocat qui se fait perquisitionner ou arrêter, etc., c'est quelque chose de rare ici, mais de grave. C'est un avocat de la profession qui vient défendre un autre avocat et moi, il n'y a pas n'importe qui est venu. J'ai eu cette chance-là. François Cornet de Saint-Cyr. Donc j'allais le voir, lui il a un certain recul sur tout ça, et au bout d'un an il m'a dit « Bon là, vous allez au procès, vous allez avoir des ennuis, il va être temps maintenant de vous défendre un peu, prenons du recul, sur le plan judiciaire on n'arrivera pas, sur le plan administratif non plus, donc là maintenant on va communiquer. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, quand vous allez voir des journalistes, vous avez assez peu de chance. Je sais que j'ai vu les gens de TF1 qui m'ont pas cru. Peu de chance que ça prenne. Ce qui a pris, c'est que les premières émissions ont été attaquées par le groupement des cartes bancaires France 3, les cartes 0. Hein, les émissions n'ont pas pu paraître. Donc ça, évidemment, ça c'est dans la profession, quand on arrive à interdire des émissions ou des sujets.
Mais en fait, finalement, ça légitimise le fait que vous avez réussi à trouver une faille.
Il y a quelque chose de vrai derrière.
On ne fait pas ça si c'est de la diffamation.
Et ensuite, ils ont commencé. Je sais que le ton a beaucoup monté à un moment donné, parce que le groupement à la fois disait que j'avais rien trouvé, mais en même temps, ils voulaient surtout pas en parler. Évidemment, c'était pas crédible, quoi. Alors, ils se prenaient le chou, apparemment, avec plusieurs journalistes qui ont vraiment compris qu'il se passait quelque chose. Vous voyez, c'est pas moi, c'est pas mon action, c'est pas tellement ça, c'est leur position qui était pas claire, qui devenait intenable. C'est un fait de société qui me dépasse, et c'est ça qui a explosé. Moi, j'étais juste le gars qui passe, qui a appuyé sur le bouton, quoi.
C'est fou, c'est dingue. Franchement, c'est comme tu disais, c'est des histoires, même à l'échelle de la France, mais en général, qui... C'est rare de trouver des failles qui ont des impacts aussi
larges,
quoi.
Mais en fait, c'est surtout un truc qu'on ne se rend pas compte, c'est parce que vous et d'autres personnes ont fait ce genre d'action qu'aujourd'hui, moi et d'autres, et toute la communauté de hackers éthiques, on arrive à pouvoir faire notre travail aujourd'hui. C'est parce que c'était tellement rare, encore une fois, ça a amené un débat à l'échelle nationale. J'ai vu les interviews sur TF1, sur France 2, tout ça, j'ai un peu regardé. Et en fait, aujourd'hui, le gouvernement, il dit aux chercheurs, allez-y, trouvez des failles, et vous l'envoyez à l'ANSSI. Et du coup, maintenant, il y a même une loi numérique qui dit, si la personne est bienveillante, elle a le droit de pirater. Du coup, je sais pas comment vous ressentez la chose aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu un changement? Est-ce que vous réalisez l'impact que ça fait, quoi.
Alors après moi, il y a une loi clientéliste, je trouve, qui est sortie, et qui vous interdit quelque chose que je trouve absolument affreux, qui vous interdit, quand vous achetez un objet, de l'ouvrir vous-même. Vous êtes censé ne plus ouvrir votre propre téléphone. C'est scandaleux. C'est vraiment des gens qui n'y connaissent rien, comme d'habitude, qui ont encore pris ce genre de choses. Je cite toujours une serrure chez vous. Si vous n'avez pas le droit de l'ouvrir, la serrure, mais pourquoi? Le problème, c'est la clé qui se trouve dedans, vous vous en doutez bien. Plus personne n'a le droit d'ouvrir la serrure, leur niveau de sécurité va baisser. Et puis évidemment, les voleurs, eux, vont les ouvrir quand même, hein, comme d'habitude. Donc c'est une mauvaise chose. Alors évidemment, c'est un peu en contradiction avec ce qui se passe aujourd'hui, où on prône un hacking généralisé, c'est-à-dire que c'est pas tellement d'aller dans les failles, mais ça consiste d'avoir le droit de modifier ces appareils, parce qu'après tout, on les achète quand même à l'origine, donc il n'y a pas de... les vendeurs ne sont pas lésés. Donc ça j'aime bien, mais c'est pas de la sécurité. Donc c'est plus large, mais c'est ça l'idée, c'est aujourd'hui c'est plus large. Aujourd'hui il y a une communauté de gens qui ont trouvé une motivation pour aller chercher des choses, etc. C'est la première chose que je vois, quoi, une énorme popularité chez les jeunes, quoi, qui se rentrent dedans.
On aime péter les trucs.
À l'époque il y avait un peu, mais aujourd'hui avec les réseaux, etc. Il y a ça, donc une très grande force dedans, et il y a aussi une grande maturité sur beaucoup de choses spécialisées aujourd'hui, hein, pour protéger, attaquer, etc. Et encore pire, toute une série de normes qui sont arrivées. C'est en gros une institutionnalisation, j'ajoute stupide, sur la chose. Ouais. Ça répond un peu.
ça répond à la question, mais totalement.
Est-ce qu'il y a un truc...
Je suis un peu intimidé.
Est-ce qu'il y a un truc potentiellement... Enfin, tu referais tout pareil?
Alors, la présidente du tribunal m'a posé la même question.
Ouais, ça c'est marrant.
Je lui ai répondu, ça dépend de la décision du tribunal. À l'époque, elle n'avait pas encore été prise.
Ouais. Et alors?
Est-ce que je referais tout pareil? Bah, les conditions étant, initiales étant les mêmes, bien sûr. Pourquoi aurais-je pris? Alors, est-ce que je ferais pareil si je savais ce qui allait m'arriver après? J'ai eu une belle vie.
C'est beau. C'est beau.
Est-ce qu'il y a des choses positives qui se sont, dans votre vie justement, qui se sont découlées vis-à-vis de ce que vous avez fait, vis-à-vis de ce parcours?
C'est sympa de discuter avec vous.
Non, mais je veux dire, est-ce que ça a déclenché ou... des... vous avez dit justement que vous avez écrit un livre, c'est pour lancer ce genre de piste justement. C'est des choses super bien.
J'ai vu plein de choses différentes, c'est une véritable expérience de vie, c'est une aventure humaine. Plein de gens qui vous reconnaissent, alors vous voulez simplement parce que vous êtes... Moi jamais j'ai souhaité être connu un jour, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Donc j'étais pas prêt. Donc j'ai découvert tout ça comme ça, mais j'ai découvert qu'est-ce que c'est qu'un studio télé, comment se marchent les journalistes, comment marche la police, comment c'est une garde à vue, comment c'est quand on écrit un livre, comment c'est dans les milieux de l'édition, comment les gens se parlent, comment... Et puis j'ai aussi un retour de contact de toutes les périodes de ma vie. Les gens avec qui j'étais enfant, les gens j'étais au lycée, les gens j'étais de partout, on retrouve des gens qui me recontactent. Et c'est une vraie aventure humaine... original, inattendu. C'est peut-être ça, quoi. Il y a des gens qui doivent rêver, pour des raisons peut-être artistiques, d'avoir de l'audience. Mmh. Moi, je n'ai vraiment aucune raison, donc j'ai aucun enjeu, quoi. Je ne m'y accrochais pas du tout. Donc, c'est ce que j'appelle une aventure, au sens où c'est inattendu. Donc oui, finalement, c'était pas mal. Et puis après, professionnellement, bon, le groupement des banques, l'État, tout ça, hein. Je me suis retrouvé avec un boulot à l'autre bout du monde, quoi, hein. Un boulot intéressant, donc pareil, j'ai vu d'autres pays, ça sent pas aussi.
Bon, tout est bien fini, bien, on est rassuré quand même, parce que... Et pour... ça me fait penser qu'on n'a pas vu tout à l'heure, peut-être que tu as entendu, mais on a compilé certains outils pour les faire découvrir à Dr. Dozman. Certains outils de hacking. On a oublié de parler de celui-là et j'ai même pas fait exprès, mais ça a totalement, enfin, plus ou moins un rapport. C'est une carte qui permet de détecter les skimmers. Voilà, donc je l'ai pas encore essayé. Enfin, j'ai pas de skimmer à disposition, mais alors pour expliquer, si je dis une bêtise, hein, mais un skimmer, c'est un appareil qui va être intégré par-dessus des bornes typiquement de retrait de billets pour exfiltrer des données d'une carte, tout simplement. C'est ça? Je fais des bêtises.
C'est une technique qui s'appelle le carding, de faire des trucs comme ça.
Alors, oui, d'accord.
Oui, et du coup, tu mets un appareil au-dessus et tu check. Mais par contre, je me demande comment ça check.
Eh ben, tu sais quoi, on va essayer. Donc, théoriquement, cette carte, tu l'insères dans un terminal de paiement. C'est censé détecter, justement, s'il y a une lecture qui a été effectuée. En gros, si t'as une double lecture, c'est signe qu'a priori, il y a un skimmer entre-temps. Donc, un petit appareil pirate. Qui essaie de voler. Et ben c'est bien foutu. Franchement, si les gens tapent skimmer sur Google, ils verront que t'en as des très bien fait.
Ils reprennent toute la borne entière.
C'est un truc global.
Et ils la calent comme ça et ils refont toute la façade, mais au millimètre près.
Toute la façade, toute la rue, ils refont.
Ça, mais vraiment, il y a un ATM, il refaut tout, mais jusqu'à mettre des fois genre des rayures dessus, tout ça, pour que ça fasse usager et tout ça. Et du coup, en fait, ça se voit pas, à part si quelqu'un décide de gigoter le truc et de l'enlever. Et là, on voit, en fait, il y en a deux, quoi. Mais du coup, ça, c'est intéressant comme
carrément,
truc.
Carrément. Mais d'ailleurs, on a toujours rêvé de faire une vidéo sur un de ces appareils-là, enfin, sur un skimmer, justement. Mais évidemment, c'est dur
à trouver. Faut en trouver, quoi.
C'est ça le problème. C'est que j'imagine qu'ils sont saisis. Donc, si vous avez un.
Comment formuler cette requête?
On va arrêter de formuler cette requête.
Ouais. Bon, si vous êtes une société de sécurité, par exemple, et que vous possédez du matériel comme ça, on est chaud de faire des essais. Tu continues à t'intéresser à la sécurité des cartes ou t'es passé sur autre chose?
Je suis pas mal passé sur autre chose, ouais, je dirais. C'est pas que j'ai pas des idées sur ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Hein. Il y en a encore, un certain nombre de choses. Mais enfin, j'appelle ça la délinquance astucieuse, quoi, les petites astuces là pour finalement quoi voler les credentials des gens. Bon, c'est pas, ça vole pas très haut techniquement. Quoi.
Ouais, c'est pas révolutionnaire, quoi.
Yeah. Moi, j'adore ce qui est minutieux et qui me dure des mois, la concentration.
La recherche.
Je dis toujours, il y a des gens, ils font du sudoku, ça les calme, ça fait. plus c'est dur, plus on est concentré. C'est un vrai plaisir, quoi. Je dirais presque que c'est ma morphine à moi, quoi, de me concentrer dessus. Et en fait, au lieu de faire un truc inutile avec du sudoku là, ou du mot croisé, ben, moi, je fais ça. Hein, je me concentre, je désassemble, j'y passe des heures. C'est un plaisir, mais sans fin.
Tu m'as mentionné.
Rien d'en parler, quoi. Je suis.
T'as envie d'y retourner. D'ailleurs, tu vas y retourner après
quand
l'émission.
Quand est-ce que l'émission se finit, concrètement?
Tu m'as dit que tu faisais un peu de robotique en ce moment?
Ouais, je fais de la robotique en ce moment, enfin, un projet perso, ouais.
Qu'est-ce qu'il fait?
J'en dis pas trop, parce qu'il y aurait plein de brevets à poser, mais je fais de l'imprimante 3D, etc.
Trop bien.
Trop bien. Est-ce que vous vous intéressez encore à la sécurité en général? Je sais pas, vérifier la sécurité de certains systèmes, ou vous êtes vraiment parti sur un champ plutôt de développement et de vraiment se dire, ok, je veux créer ça, je vais passer 5 mois dessus, quoi.
Je l'ai dit tout à l'heure, là, la carte bancaire se craque en grande partie uniquement par l'observation.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui reste présent. Et donc, on peut voir, de partout, quoi. Donc, oui, j'observe tout le temps, et donc forcément, il y a plein de choses que je remarque sur comment pouvoir passer ici ou là, ce qui est potentiellement attaquable, ce qui ne l'est pas. Un conseil pour les jeunes hackers, tiens, que t'entends, il y en a qui viennent me voir, ils veulent un conseil, ben alors je vais le donner à tous comme ça. Je connais un gars qui a fait un nouveau système Linux, il a passé, 10 000 heures. C'est un truc nébuleux. C'est un travail de dingue, c'est fantastique, mais c'est nébuleux, personne ne le sait, ça intéresse personne.
Ok.
Faites un truc original que personne n'a jamais fait. Pas forcément difficile, mais original. Et là, tout le monde parlera de vous. Parce qu'ils ont un truc à dire parce que c'est nouveau. Voilà. Choisissez votre cible. Une grande partie du travail est là.
Excellent. Merci pour ce
très bon conseil.
Pour ce mot de la fin pour tous les gens dans la cyber qui sont nombreux et qui nous suivent.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.